Chapitre 8. Sur le passage de l'homme invisible. Ce chapitre est extrêmement bref. On y apprend l'aventure de Gibbons, le naturaliste amateur de la paroisse. Tandis qu'il était couché, presque endormi, sur les immenses dunes dans un isolement absolu, il entendit tout près de lui le bruit d'un homme toussant, éternuant et maugréant avec fureur. Il tressaillit et ne vit rien. Pourtant, cette voix résonnait, il n'y avait pas à en douter. Elle continua de maugréer, avec cette ampleur et cette variété auxquelles se reconnaissent les jurons d'un homme bien élevé. Elle monta, puis baissa, puis se perdit au loin, du côté d'Adodine, à ce que crut Gibbons. Elle éclata dans un éternuement nerveux et mourut tout à fait. Gibbons ne savait rien encore des événements de la matinée. Mais le phénomène était si frappant, si troublant, que sa sérénité de philosophe n'y résista point. Il se releva précipitamment et descendit au pas de course la pente raide de la côte dans la direction du village aussi vite qu'il le put. Chapitre 9. Monsieur Thomas Marvell. Représentez-vous Monsieur Thomas Marvell sous les traits d'un homme à grosse figure mobile, au nez en forme de protubérance cylindrique, à la bouche lipue et flasque, à la barbe bizarre et hérissée. Son corps avait une tendance à l'embonpoint, et ses membres courts accentuaient encore cette disposition. Il portait un chapeau de soie aux poils rebroussés, et les boutons, remplacés trop souvent par des bouts de ficelle aux endroits de son costume qui avaient le plus besoin d'être soutenus, trahissaient le célibataire endurci. M. Thomas Marvell était assis sur le bord de la route, de l'autre côté des dunes, vers Adodine, à environ 1,5 mille d'Iping. Ses pieds déchaussés passaient à travers les trous de ses chaussettes. On voyait ses larges orteils se dresser comme les oreilles d'un chien en arrêt. Nonchalamment, il faisait tout nonchalamment, il se disposait à essayer une paire de bottes. C'étaient bien les bottes les meilleures qu'il eût possédées depuis nombre d'années, un peu trop larges seulement. Celles qu'il portait, très convenables pour les temps secs, avaient la semelle vraiment trop mince pour les jours pluvieux. Or, M. Thomas Marvell détestait les chaussures larges. D'autre part, il redoutait infiniment l'humidité. Jamais, en somme, il ne s'était bien inquiété de ses préférences. Mais la journée était belle, et il n'y avait rien de mieux à faire. Aussi disposa-t-il les quatre chaussures en un groupe harmonieux sur le sable, puis il les examina. En les voyant là, dans l'herbe naissante, il lui vint à l'esprit que ces deux paires étaient très vilaines. Il ne fut pas du tout étonné d'entendre une voix derrière lui. « En tout cas, ce sont des chaussures, » disait cette voix. « Oui, des chaussures données, » répondit M. Marvell, les considérant, la tête penchée, avec mépris. « Quelle est la paire la moins horrible des deux ? Sacristie, je veux être pendu si je le sais. »« Hum !» fit la voix. « Au fond, j'en ai porté de plus mauvaises. Il m'est même arrivé de ne pas en porter du tout. Mais pas de plus cyniquement laide, passez-moi l'expression. Dire que j'ai mendié les chaussures pendant des jours parce que j'étais dégoûté de celles que j'ai. Celles-ci, évidemment, sont en bon état. Nous autres touristes, nous tenons beaucoup à nos souliers. Vous me croirez si vous voulez. J'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé autre chose dans ce sacré pays. Voyez-moi un peu ça. Et cependant, en général, un bon pays pour les chaussures, vraiment. Mais c'est bien là ma chance ordinaire. Des hauts, des bas. Je me suis servi dans ce pays 10 ans, sinon plus. Et maintenant, être traité de cette façon-là, c'est un sale pays, dit la voix. Et quant aux habitants, de sales gens. N'est-ce pas, dit Thomas Marvell. Seigneur, ces bottes, c'est une horreur. Il tourna la tête, par-dessus son épaule, à droite, pour examiner les chaussures de son interlocuteur, avec l'idée de faire la comparaison. Ah, bien, wish! Là où auraient dû être les pieds de l'interlocuteur, il n'y avait ni pieds ni jambes. Il se retourna vers la gauche, là non plus, il n'y avait rien. Une lueur d'étonnement lui traversa l'esprit. « Où êtes-vous » dit-il en se mettant à quatre pattes. Il vit une certaine étendue de la dune solitaire. Le vent agitait au loin les genêts verdoyants. « Suis-je donc ivre ?» se demanda M. Thomas Marvell. « Ai-je eu des hallucinations ? Est-ce à moi-même que je parlais ? Que diable ! « N'ayez pas peur, » reprit la voix. « Assez de ventriloquie comme ça, » dit Marvell, se dressant vivement sur ses pieds. « Où êtes-vous ? Peur ? Plus souvent. »« N'ayez pas peur, » répéta la voix. C'est vous qui aurez peur dans une minute, imbécile. Où êtes-vous que je vous attrape ? Après un intervalle, vous êtes donc mort et enterré ? Pas de réponse. Monsieur Thomas Marvel restait là, déchaussé, stupéfait, sa veste posée à terre. Piwit, siffla un vanneau dans le lointain. Piwit, piwit, fit Monsieur Marvel. Ce n'est pas l'heure de plaisanter. La dune était désolée, à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. La route, avec ses fossés peu profonds et ses poteaux blancs en bordure, courait unie et solitaire au sud comme au nord. Et, sauf ce vanneau, le ciel bleu lui aussi était vide. « Que Dieu m'assiste !» fit M. Thomas Marvel en remettant sa veste. « C'est ce que j'ai bu. J'aurais dû m'en méfier. »«
Non, ce n'est pas ce que vous avez bu, » répliqua la voix. « Calmez vos nerfs. »«
Oh !» s'écria Marvel. Et son visage devint blême sous le hâle. « C'est ce que j'ai bu !» répétaient ses lèvres sans faire de bruit. Et il jetait les regards ébahis autour de lui, et il reculait à pas compter. « Je jurerais bien que j'ai entendu une voix, » murmura-t-il.
« Certainement. »«
La voilà encore !» fit M. Marvel, en fermant les yeux et en passant la main sur son front d'un geste tragique. Il fut tout à coup saisi au collet, secoué violemment, et resta plus effaré que jamais.
« Ne faites pas la bête !» ajouta la voix.
« C'est bon, mon brave. On s'en va. Tout cela est inutile. Il n'y a pas de quoi discuter pour ces bottes éculées. Je m'en vais. Mais c'est peut-être des esprits. »
« Non. Écoutez. »«
Hein, mon brave ?»«
Une minute, » fit la voix vibrante d'énergie.
« Alors, » demanda Marvel, qui venait d'avoir la sensation d'être touché à la poitrine par un doigt.
« Ainsi, vous croyez que je suis un esprit, rien qu'un esprit ?»
« Que seriez-vous autrement ?» dit Marvel en se grattant la nuque.
« Très bien, » fit la voix avec un ton de soulagement. « Maintenant, je vais vous lancer les pierres jusqu'à ce que vous ayez changé d'avis. »«
Où êtes-vous donc ?» La voix ne répondit pas. Une pierre, comme venue du ciel, passa en sifflant. Il s'en fallut de l'épaisseur d'un cheveu qu'elle n'atteignit l'épaule de M. Thomas Marvel. Celui-ci, se retournant, vit un autre caillou suivre une trajectoire savante, demeurer suspendu un instant, puis tomber sur le sol d'un mouvement si rapide qu'il en était presque imperceptible. La stupeur l'empêcha de s'esquiver. Une troisième pierre fendit l'air, ricocha sur un de ses orteils nus dans le fossé. M. Thomas Marvel sauta à cloche-pied et hurla bien fort. Il voulut courir, trébucha contre un obstacle qu'il ne voyait point, et, ayant fait une culbute, il se retrouva assis par terre. À présent, continua la voix, tandis qu'une dernière pierre, décrivant une courbe dans l'air, restait suspendue au-dessus du cheminot, « Suis-je encore une hallucination ?»
M. Thomas Marvel, pour toute réponse, essaya de reprendre son équilibre. Roulé de nouveau, il se tint immobile une minute. « Si vous faites un mouvement, ce caillou vous casse la tête. »«
C'est une belle action, » fit M. Thomas Marvel, assis, tenant dans sa main son pied blessé, et levant les yeux sur le dernier projectile. « Je n'y comprends rien. Des pierres qui volent toutes seules, des pierres qui parlent. Descendez donc, allons, vite, je me rends. » La pierre tomba.
« C'est bien simple, je suis un homme invisible. »«
Dites-moi quelque chose, » répondit M. Marvel, haletant. « Où êtes-vous caché ? Comment avez-vous fait ? Je l'ignore.
Je suis invisible, c'est tout. Voilà ce que je vous prie de comprendre. »
« Personne ne pourra croire cela. Vous n'avez pas besoin, monsieur, d'être furieusement impatient. Voyons, donnez-nous-en une idée. Comment êtes-vous caché ?»«
Je suis invisible, c'est le grand point. Voilà ce que je vous prie de comprendre. »«
Mais où êtes-vous ? » interrompit Marvel.
« Ici, à 6 mètres de vous. » »«
Allons donc, je ne suis pas aveugle. Vous allez bientôt me dire que vous êtes du vent. Je ne suis pas de ces vagabonds ignorants.
Soit, je suis l'air subtil. » C'est à travers moi que vous voyez.
Ainsi, vous n'êtes rien de matériel ? Une voix, et comment dirais-je, des phrases, des mots, est-ce cela ?
Je suis un être humain, solide, ayant besoin de nourriture, de boissons, de vêtements. Mais je suis invisible. Y êtes-vous ? Invisible. Invisible.
Quoi, vraiment ?
Oui, un être très réel.
Alors, dit Marvel, donnez-moi une de vos mains si vous êtes réel. « Je ne suis pas un loqueteux si bizarre que vous ne puissiez. »« Seigneur, » ajouta-t-il,
Vous me faites sauter en me serrant ainsi. » Une fois ses doigts dégagés, il palpa la main qui avait étreint son poignet. Il suivit timidement le bras, il tapota une forte poitrine, il reconnut une figure à barbe. Avec quelle stupéfaction! « Je suis confondu, c'est incroyable! Alors, à 1 mille de distance, je pourrais voir un lapin à travers vous? Il n'y a pas un bout de votre personne qui soit visible, sauf... » Et il scrutait attentivement l'espace vide en apparence. « N'avez-vous pas mangé récemment du pain et du fromage ? » demanda-t-il.
« Oui, vous avez raison. Cela ne s'est pas encore assimilé. »
« Ah, voilà qui est vraiment surnaturel.
Tout cela n'est pas aussi effrayant que vous le croyez. »
« Ça l'est déjà bien assez pour moi. Il ne m'en faut pas tant. Mais comment vous y êtes-vous pris ? Comment diable cela se fait-il ? »
« C'est une trop longue histoire. Et d'ailleurs,
je vous le répète, tout cela est prodigieux. »
« Écoutez ce que j'ai à vous dire. » « J'ai besoin d'aide. Je vous ai rencontré, je suis tombé sur vous à l'improviste. J'étais égaré, fou de rage, nu, impuissant. J'aurais commis un meurtre. Et je vous ai vu.
Seigneur !»
Je me suis approché de vous, j'ai hésité, j'ai poursuivi ma route. »
La physionomie de Marvel exprimait la terreur.
« Puis je me suis arrêté. C'est, me suis-je dit, un pauvre diable comme moi-même. C'est l'homme qu'il me faut. Alors je me suis ravisé. « Je suis venu à vous et... »«
Seigneur, gémit de nouveau Marvel, je suis tout étourdi. Puis-je vous adresser une question ?»« Comment se fait-il ? Qu'est-ce que vous pouvez bien, vous, invisible, me demander comme secours ?»«
Je vous prie de m'aider à trouver des vêtements, un abri, les autres choses indispensables. J'ai abandonné tout ce qui était à moi. Si vous ne voulez pas, soit.
Mais vous m'aiderez, il le faut. »« Je suis trop abasourdi, fit Marvel. » « Ne me bouleversez pas davantage. Laissez-moi. Il faut que je reprenne un peu de calme. Vous m'avez à peu près écrasé un orteil. Tout cela est insensé. Personne sur la dune, rien là-haut. Rien de visible à plusieurs milles que la nature. Voilà qu'une voix arrive à mon oreille, une voix venant du ciel, puis des pierres, puis un coup de poing. Mon Dieu !»«
Rassemblez vos esprits, car il faut absolument faire la besogne que je vous ai assignée. »
M. Marvel enfla ses joues, ses yeux devinrent tout ronds.
« Oui, je vous ai choisi, » insista la voix. « Vous êtes le seul être, exception faite de quelques imbéciles de là-bas, qui sache l'existence de cette chose invraisemblable, un homme invisible. Il faut que vous m'assistiez. Je ferai pour vous tout ce que je pourrai. Un homme invisible est un homme puissant. »
Il s'interrompit pour éternuer bruyamment.
« Mais si vous me trahissez, si vous négligez de suivre mes instructions... »
Il fit une pause et frappa vigoureusement sur l'épaule de M. Marvel. Celui-ci poussa un gémissement de terreur et, s'éloignant du point redoutable, « Je n'ai pas l'intention de vous trahir. N'allez pas croire cela. Quoi que vous fassiez, je désire vous aider. Seulement, dites-moi ce que j'aurai à faire. Seigneur, tout ce que vous voudrez, je suis prêt à le faire. » Chapitre 10. Visite de M. Thomas Marvel à Epping. Après que la première panique se fut dissipée, Epping se mit à discuter. Le scepticisme tout à coup dressa la tête, un scepticisme un peu inquiet, pas du tout intrépide, scepticisme néanmoins. Rien n'est plus facile que de ne pas croire à un homme invisible. En somme, ceux qui avaient vu notre héros s'évanouir dans l'espace, ou qui avaient éprouvé la vigueur de son bras, on pouvait en faire le compte sur les doigts. De ces témoins, M. Watchers manquait pour l'instant, puisqu'il s'était prudemment mis en sûreté derrière les verrous et les barreaux de sa propre demeure. Jaffers, lui, était couché, étourdi dans le salon de l'auberge. Et de grandes idées étranges qui dépassent l'expérience ont parfois moins d'effet sur les hommes et les femmes que de petites considérations plus prochaines. Epping était joyeux et paré. Chacun avait revêtu ses habits de fête. Les réjouissances de ce lundi de Pentecôte était attendu depuis un mois et plus. Dans l'après-midi, les gens même qui croyaient à l'homme invisible commencèrent à reprendre leurs petites distractions, ou du moins essayèrent d'y revenir, supposant qu'il était définitivement parti. Quant aux sceptiques, toute l'histoire n'était pour eux qu'une farce. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde, crédules et incrédules également, fut extrêmement gai ce jour-là. Le pré de Heisman était décoré d'une tente, où Madame Bunting et d'autres dames préparaient le thé, tandis que les enfants faisaient des courses et jouaient à divers jeux sous la direction bénévole et bruyante de Mesdemoiselles Cass et Sackbut. Sans doute, il y avait dans l'air une certaine inquiétude. Mais les gens, pour la plupart, avaient le bon esprit de dissimuler tout ce que leur imagination leur faisait éprouver de malaise. Sur la place du village était en grande faveur, surtout auprès des jeunes gens, un câble incliné le long duquel, en se suspendant à une poulie pourvue d'une poignée, on glissait rapidement jusqu'à un gros sac placé à l'autre extrémité. Grand succès aussi pour les balançoires et les jeux de massacre. Il y avait encore un orgue à vapeur, attaché à un petit manège de chevaux de bois, et qui remplissait l'air d'une âcre odeur de graisse chaude et d'une musique moins désagréable. Les membres du club, qui avaient assisté à l'office dans la matinée, étaient superbes sous leurs insignes roses et verts. Les plus joyeux avaient orné leurs chapeaux de rubans aux couleurs éclatantes. Le vieux Fletcher, lui, n'avait sur la manière de célébrer les fêtes que des idées plutôt graves. Soit à travers le jasmin, soit par la porte ouverte de son jardin, on pouvait le voir, auprès de la fenêtre, dressé avec précaution sur une planche que supportaient deux chaises et badigeonnant à la chaux le plafond de sa chambre. Vers 4 heures, un étranger entra dans le village, venant du côté des dunes, un petit homme, court, vigoureux, sous un chapeau tout à fait râpé. Il paraissait hors d'haleine, ses joues se gonflaient très fort. Sa figure colorée semblait craintive. Il s'agitait avec la vivacité de quelqu'un qui se débat. Il tourna l'angle de l'église et se dirigea vers l'auberge que nous connaissons. Par parenthèse, le vieux Fletcher se rappelle l'avoir vu. Il fut même si frappé de cette agitation anormale que par inadvertance, tandis qu'il regardait, il laissa une quantité de son lait de chaux lui descendre le long du pinceau jusque dans la manche. L'étranger, selon l'observation du propriétaire du jeu de massacre, sembla se parler à lui-même. M. Huxter en fit aussitôt la remarque. Il s'arrêta devant le perron de l'auberge et, d'après M. Huxter, parut en proie à une lutte intérieure avant de pouvoir se décider à entrer. Finalement, il gravit les marches. M. Huxter le vit tourner à gauche et ouvrir la porte du salon. M. Huxter entendit même des voix qui, de l'intérieur de la pièce et du bar, avertissaient l'homme de son erreur. « Salle réservée !» cria Hall. L'étranger referma la porte gauchement et pénétra dans le bar. Au bout de quelques minutes, il reparut sur le seuil de l'auberge, s'essuyant les lèvres du revers de la main, et avec un air de satisfaction et de calme, qui, d'après M. Huxter, était affecté. Il demeura un moment à regarder autour de lui. Puis M. Huxter le vit marcher d'une manière furtive et suspecte vers la grille de la cour, sur laquelle donnait la fenêtre du salon. Après un peu d'hésitation, il s'accota contre un des montants de la grille, tira de sa poche une petite pipe en terre et se mit à la bourrer. Ses doigts tremblaient. Il l'alluma gauchement et, croisant les bras, commença de fumer dans une attitude languissante que démentaient d'ailleurs des coups d'œil rapides jetés de temps à autre sur la cour. Tout cela, M. Huxter le suivit par-dessus son étalage de marchand de tabac. La singularité de ses allures l'engagea à continuer ses observations. Tout à coup, l'étranger, se redressant, fourra sa pipe dans sa poche, puis il disparut dans la cour. Aussitôt, M. Huxter, s'imaginant être le témoin de quelque menu larcin, fit en courant le tour de son comptoir et se précipita dans la rue pour couper la retraite au voleur. Au même instant, M. Marvel reparaissait, le chapeau de travers, un gros paquet enveloppé d'un tapis de table bleu dans une main, et dans l'autre main, 3 volumes ficelés ensemble, comme on le reconnut plus tard, avec les bretelles du pasteur. Dès qu'il eut aperçu Huxter, il poussa une sorte de soupir convulsif et, tournant vivement à gauche, il se mit à courir. « Au voleur ! Arrêtez-le ! » cria Huxter en s'élançant à sa poursuite. Les sensations de M. Huxter furent vives mais brèves. Il vit l'homme, juste devant lui, bondir avec agilité vers l'angle de l'église, dans la direction des dunes. Il le vit dépasser les drapeaux et les oriflammes du village en fête. 2 ou 3 figures seulement s'étaient tournées vers lui. De nouveau, M. Huxter brailla « Arrêtez-le ! Au voleur !» et le pourchassa vaillamment. Mais il n'avait pas fait 10 enjambées que sa cheville fut saisie par une étreinte mystérieuse. Il ne courut plus, Il fendit l'espace avec une incroyable rapidité. Soudain, sa tête se rapprocha du sol, et du monde, il ne vit plus que 36 chandelles, indifférent dès lors à tout ce qui pouvait arriver. Chapitre 11. Dans l'auberge. Pour bien comprendre ce qui s'était passé dans l'auberge, il faut revenir en arrière jusqu'au moment où M. Marvel fut aperçu de M. Hackstar par sa fenêtre. À ce moment précis, M. Cass et M. Bunting se trouvaient dans le salon. Ils en étaient à passer sérieusement en revue les événements bizarres de la matinée et, avec la permission de M. Hall, ils se livraient à un examen minutieux des affaires de l'homme invisible. Jaffers était à peu près remis de sa chute. Il était rentré chez lui, aidé par ses amis. Les vêtements éparpillés de l'étranger avaient été enlevés par Mme Hall. On avait remis en ordre la chambre à coucher. Sur la table, devant la fenêtre où l'étranger avait ordinairement travaillé, Cass avait trouvé trois gros livres manuscrits intitulés « Journal ».« Journal », répéta Cass, en s'asseyant et en plaçant deux des volumes de manière à supporter le troisième qu'il ouvrit. « Pas de nom sur la feuille de garde, c'est ennuyeux. Des chiffres et des figures. » Le pasteur vint regarder par-dessus son épaule. Cass tourna les pages, le visage subitement désappointé. « Sapristi, rien que des chiffres, Bunting. N'y a-t-il pas des figures, des dessins qui jettent quelques lumières? Voyez-vous-même, il y a d'une part des signes mathématiques et d'autre part des caractères du russe ou quelque autre langue de ce genre-là. Il y a aussi des lettres grecques. Pour ce qui est du grec, je pense que vous... » « sans doute, » fit Bunting, en ôtant et en essuyant ses lunettes. Il était subitement très gêné, car pour ce qui lui restait le grec dans la tête, ce n'était pas la peine d'en parler. « Oui, le grec, évidemment, peut nous fournir un fil, une piste. Je vais vous en trouver un passage. J'aimerais mieux auparavant jeter un coup d'œil sur les trois volumes, » reprit M. Bunting, en essuyant toujours ses verres. « D'abord, une impression générale, Cass, et alors, vous comprenez, nous pourrons chercher le fil. » Il toussa, remit ses lunettes, les assujettit avec soin, toussa de nouveau, et fit des vœux pour qu'un incident quelconque vint empêcher la fâcheuse épreuve qui paraissait inévitable. Il prit avec de lentes précautions le volume que lui tendait Cass. À ce moment, l'incident souhaité se produisit. La porte s'ouvrit tout à coup. Les deux hommes tressaillirent, regardèrent autour d'eux. Ils eurent presque du plaisir à voir une figure d'un rose de corail au-dessous d'un chapeau à la soie rebroussée. « Ce n'est pas ici le bar ?» demanda le personnage, immobile, les yeux fixes. « Non, » répondirent ensemble ces deux messieurs. « De l'autre côté, mon brave, » ajouta M. Bunting. « Et veuillez fermer cette porte, » cria M. Cass d'un ton irrité. « Parfait, » dit l'intrus d'une voix profonde, tout à fait différente, semblait-il, de la voix rauque de sa première question. Puis, avec sa voix de la première fois, « C'est bon, » fit-il, « larguez !» Il s'en alla et ferma la porte derrière lui. « Un matelot, je pense, » dit Bunting. « Ce sont de braves gens. Larguez, oui, c'est un terme de marine, s'appliquant, je pense, à son départ de cette pièce. »« Sans doute, » fit Cass. « J'ai les nerfs tout à fait ébranlés aujourd'hui. Cela m'a fait sauter, cette porte s'ouvrant de cette façon. » M. Bunting sourit, comme si lui-même n'avait pas sauté aussi. « Et maintenant, » reprit-il avec un soupir, « à nos livres. » « Une minute, » fit Cass, qui alla fermer la porte à clé. « Comme cela, nous serons à l'abri de toute invasion. » Il en était là lorsqu'il y eut un reniflement. « Une chose est indiscutable, » déclara Bunting, en attirant un siège auprès de celui de Cass. « Il s'est certainement passé des choses étranges à Epping pendant ces jours derniers, des choses très étranges. Je ne puis pas ajouter foi, évidemment, à cette histoire absurde d'un homme invisible. » « C'est incroyable, en effet, vraiment incroyable. Mais ce fait subsiste que j'ai certainement vu jusqu'au fond de sa manche. Mais avez-vous vu? En êtes-vous bien sûr? Supposez, par exemple, un miroir. Les hallucinations se produisent si facilement. J'ignore si vous avez jamais vu un prestidigitateur vraiment habile. Je ne veux pas recommencer à discuter. Nous avons épuisé cette question-là, Bunting. Maintenant, il s'agit de ces volumes. Ah, voici quelques lignes de ce qui me paraît du grec. Ce sont des lettres grecques, certainement. M. Cass avait le doigt sur le milieu de la page. M. Bunting se pencha légèrement pour regarder de plus près. Ce grec était écrit en caractères des plus fins. Il songea que tous ses paroissiens croyaient à sa connaissance des textes grecs et hébreux. Fallait-il donc avouer, ou bien retrouverait-il des bribes de science? Tout à coup, il éprouva une singulière sensation à la nuque. Il essaya de remuer la tête. Il rencontra une résistance invincible. C'était une compression extraordinaire, l'étreinte d'une main solide et lourde qui lui portait irrésistiblement le menton vers la table. « Pas un mouvement, mes petits messieurs, » murmura une voix, « ou je vous casse la tête à tous les deux. » Bunting regarda la figure de Cass, alors toute rapprochée de la sienne. Il y vit le reflet de sa propre épouvante. « Je suis fâché de vous traiter avec rudesse, » reprit la voix, « mais je ne peux pas faire autrement. Depuis quand avez-vous appris à fureter dans les notes secrètes d'un savant ?» Deux mentons heurtèrent la table en même temps et deux mâchoires claquèrent. « Depuis quand avez-vous appris à envahir le domicile privé d'un homme dans le malheur ?» Et le choc se renouvela. « Où a-t-on mis mes vêtements ?»« Écoutez, la fenêtre est fermée et j'ai pris la clé de la porte. Je suis passablement fort et j'ai le tisonnier sous la main. Et je suis invisible. Il n'y a pas à en douter, je pourrais, si je le voulais, vous tuer tous les deux et m'en aller le plus facilement du monde. M'entendez-vous ? Parfaitement. Eh bien, si je vous laisse aller, me promettez-vous de ne pas faire de bêtises et d'exécuter ce que je vous dirai. » Le pasteur et le médecin se regardèrent l'un l'autre, et le docteur fit la grimace. « Oui, » dit M. Bunting. Et le docteur répéta « Oui ». Alors leur cou échappa à l'étreinte. Ils se redressèrent, la figure très rouge, faisant aller leur tête de droite à gauche et de gauche à droite. « Veuillez rester assis où vous êtes, » dit l'homme invisible. « J'ai là le tisonnier, vous savez. » « Quand je suis entré dans cette pièce, » poursuivit-il, après avoir mis le tisonnier sous le nez de chacun de ses visiteurs, « je ne m'attendais pas à la trouver occupée. Et je m'attendais, par contre, à trouver avec mes livres de notes toute ma garde-robe. Où est ma garde-robe ? Non, ne vous levez pas. Je vois très bien qu'elle n'est plus ici. Or, en ce moment, quoique les journées soient assez chaudes pour qu'un homme invisible puisse aller et venir, les soirées sont froides. J'ai besoin de vêtements et de quelques autres petites choses. Il me faut aussi ces trois livres. »
Chapitre 12. L'homme invisible se fâche. Il est inévitable que, arrivé à ce point, le récit s'interrompe de nouveau, pour une certaine raison très pénible que l'on saura tout à l'heure. Tandis que cela se passait dans le salon, tandis que M. Hackstaff guettait M. Marvel fumant sa pipe contre la grille de la cour, M. Henfrey et M. Hall, dans le bar, continuaient à discuter le seul sujet possible ce jour-là à Epping. Soudain, on entendit un coup violent contre la porte du salon, un cri perçant, puis plus rien. « Hé, là-bas !» fit Teddy Henfrey. « Hé, là-bas » fit-on aussi derrière le comptoir. M. Hall rangea tout d'une main lente mais sûre. « Il y a quelque chose, » dit-il en quittant le comptoir pour se diriger vers le salon. Teddy et lui s'approchèrent ensemble de la porte, attentifs, les yeux écarquillés. « Il se passe quelque chose, » reprit Hall. Et Henfrey fit un signe d'acquiescement. De désagréables bouffées d'une odeur chimique vinrent jusqu'à eux, puis le bruit indistinct d'une conversation très rapide, à voix très basse. « Dites donc, vous n'avez besoin de rien ?» demanda Hall en frappant à la porte. Les chuchotements cessèrent. Il y eut un moment de silence, puis encore des chuchotements, puis encore un cri. « Non, non, vous ne ferez pas ça !» Alors on entendit des mouvements, une chaise renversée, une courte lutte. Puis de nouveau le silence. « Que diable !» s'écria Henfrey entre ses dents. « Vous n'avez besoin de rien ?» demanda encore Hall d'une voix plus forte. Le pasteur répondit d'une voix curieusement saccadée, « Non, merci, ne nous dérangez pas. »« Bizarre, » dit M. Henfrey. « Bizarre, » répéta M. Hall. Il a dit, « Ne nous dérangez pas. » J'ai pas entendu. Puis il a reniflé. Ils restèrent là, l'oreille tendue. De l'autre côté, la conversation était rapide et sourde. « Je ne veux pas !» déclarait M. Bunting en élevant la voix. « Je vous dis, monsieur, que je ne ferai pas cela. »«
Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Henfrey. « Il dit qu'il ne veut pas. Ce n'est pas à nous qu'il parle, hein ? C'est honteux !» cria M. Bunting à l'intérieur. « Honteux !» répéta M. Henfrey. « Je l'ai entendu distinctement. Qui est-ce qui parle à présent ?»«
M. Cass, je pense, » répondit M. Hall.
« Entendez-vous quelque chose ?»« On dirait qu'il secoue le tapis de la table, » dit Hall. Madame Hall apparut derrière le comptoir. Son mari lui fit des signes pour l'inviter à se taire. Cela réveilla en elle l'esprit conjugal d'opposition.
« Qu'est-ce que vous écoutez là? N'avez-vous donc rien de mieux à faire, un jour de fête comme aujourd'hui ?»
Hall essaya de se faire comprendre par des grimaces et des gestes muets. Mais sa femme était obstinée, elle éleva la voix. Hall et Henry, découragés, se retirèrent sur la pointe des pieds dans le bar, continuant à gesticuler pour la mettre au courant. Tout d'abord, elle refusa d'ajouter foi à ce qu'ils avaient entendu. Puis elle exigea que Hall se tût pendant que Henry lui racontait l'histoire. Elle était disposée à ne voir en tout cela que des sottises. Sans doute on avait remué les meubles.
« Je l'ai entendu crier, c'est honteux, j'en suis sûr, » dit Hall.
« Je l'ai entendu aussi, » affirma Henry.
« Cela ne prouve rien. »«
Chut !» fit M. Teddy Henry. « Il me semble que j'ai entendu la fenêtre. »«
Quelle fenêtre ?»«
La fenêtre du salon. » Chacun se tenait attentif, l'oreille au guet. Les yeux de Madame Hall, dirigés droit devant elle, voyaient, sans voir, le rectangle lumineux de la porte d'entrée, la route blanche et animée, la façade de la boutique de Haxta, chauffée par le soleil de juin. Soudain, sur le seuil de sa boutique, Haxta apparut, les yeux agrandis par l'émotion, les bras battant l'air. « Au secours » criait-il, « au voleur !» Il passa en courant dans le rectangle lumineux, allant vers la grille de la cour, et il disparut. En même temps venait du salon un éclat tumultueux, un bruit de fenêtre que l'on ferme. Hall, Henry et tous les clients du bar se précipitèrent dans la rue en se bousculant. Ils virent quelqu'un tourner vivement le coin, allant vers les dunes, et M. Haxta faire un bond qui se termina aux dépens de son nez et de son épaule. Dans le bas de la rue, les gens demeuraient immobiles d'étonnement ou accouraient. M. Haxta gisait là, étourdi par sa chute. Henry s'arrêta pour regarder. Mais Hall et deux ouvriers sortis du bar continuèrent ensemble jusqu'au coin, en poussant des cris inarticulés, et virent M. Marvel disparaître derrière l'église. Il leur vint cette idée singulière que cet homme était l'homme invisible devenu subitement visible, et ils se précipitèrent tous à la fois à sa poursuite. Mais Hall avait à peine franchi une douzaine de mètres qu'il poussa un grand cri de surprise et tomba de côté, la tête la première, se raccrochant à l'un des ouvriers et l'entraînant par terre dans sa chute. Il avait été bousculé tout à fait comme au football. L'autre ouvrier fit demi-tour, regarda, et croyant que Hall était tombé par accident, il reprit la chasse. Ce ne fut que pour recevoir un croc en jambe, tout comme Haxta. Puis, tandis que son camarade se débattait à ses pieds, il reçut de côté un coup à renverser un bœuf. Au moment où il tomba, la foule affluait de la place et tournait le coin. La première personne qui parut fut le propriétaire du jeu de massacre, un grand et gros homme vêtu d'un jersey bleu. Il fut étonné de voir, dans cette rue vide, trois hommes couchés par terre, tous de leur long, sans raison apparente. Mais quelque chose heurta le pied qu'il avait en arrière. Il retomba, la tête en avant, et roula de côté, juste de façon à embarrasser les jambes de son frère et associé, qui le suivit dans la poussière. Et tous deux furent frappés, piétinés, couverts d'injures par quantité de gens trop pressés. Lorsque Hall, Henry et les deux ouvriers étaient sortis en hâte de la maison, Madame Hall, instruite par des années d'expérience, était demeurée dans le bar auprès de la caisse. Brusquement, la porte du salon s'ouvrit, M. Cass parut et, sans la regarder, dégringola les deux clés du perron, courant vers le coin de la rue.
« Arrêtez-le » criait-il. « Ne le laissez pas jeter son paquet. Vous pourrez le voir aussi longtemps qu'il tiendra son paquet. »
Il ne se doutait pas de l'existence de Marvel. L'homme invisible avait saisi le livre et le paquet et les avait lancés dans la cour. Les yeux de M. Cass exprimaient la colère et la résolution, mais son costume était insuffisant. Une sorte de petit jupon blanc, fripé, à peine convenable au pays des palicares.
« Arrêtez-le » criait-il. « Il m'a volé mon pantalon, et il a déshabillé le pasteur de la tête aux pieds.
« Courez après lui tout de suite » ordonna-t-il à Henry, en passant auprès de Haxta, étendu la face contre terre. Mais comme il tournait le coin pour rejoindre la foule en émoi, un coup imprévu le fit choir, lui aussi, dans une posture inconvenante. Quelqu'un en pleine course lui marcha lourdement sur un doigt. Il hurla, fit effort pour se remettre sur pied, fut frappé de rechef et jeté à quatre pattes. Il fut bien obligé de comprendre qu'il était, non le chasseur, mais le chassé. Tout le monde s'en retournait en courant vers le village. Il se releva encore et fut atteint fortement derrière l'oreille. Il chancela, puis, sans demander son reste, battit en retraite vers l'auberge, sautant par-dessus Haxta, abandonné, qu'il trouvait maintenant assis en travers de la route. Déjà, il était sur les marches de l'auberge, lorsqu'il entendit, derrière lui, un cri de rage, dominant tout le brouhaha, et une claque retentissante qui s'abattait sur la joue de quelqu'un. Cette voix, il la reconnut, c'était celle de l'homme invisible. Une seconde après, M. Cass était de retour dans le salon.
« Le voilà qui revient, Bunting, » dit-il en s'élançant à l'intérieur. « Prenez garde à vous. »
M. Bunting se tenait dans l'embrasure de la fenêtre, tout entier à la tâche entreprise de se composer une tenue décente avec le tapis de foyer et un numéro de la Gazette du comté. « Qui revient ? » demanda-t-il en tressaillant si fort que son costume faillit se défaire.
« L'homme invisible !» répondit Gus en se précipitant à la fenêtre. « Nous ferions mieux de vider les lieux. Il se bat comme un enragé. »
Une seconde après, M. Cass était dans la cour. « Juste ciel !» s'écria M. Bunting, hésitant devant une alternative épouvantable. Il entendit alors une lutte terrible dans le corridor de l'auberge. Sa résolution fut aussitôt prise. Il sauta par la fenêtre, ajusta son costume à la hâte et s'enfuit à travers le village aussi vite que lui permirent ses petites jambes grasses. Depuis le cri de rage poussé par l'homme invisible et la fuite mémorable de M. Bunting, il est impossible de donner un compte-rendu suivi des événements. Il se peut que l'intention première de l'homme invisible ait été de couvrir simplement la retraite de Marvel, porteur des vêtements et des livres. Mais son caractère, qui n'était jamais bien égal, semble avoir ressenti quelques sautes de vent. Il se mit à frapper, à renverser tout le monde, pour le plaisir, par amour de l'art. Figurez-vous la rue pleine de gens qui courent. Les portes se ferment avec violence, on se bat pour trouver un refuge. Imaginez les envahisseurs qui rencontrent l'échafaudage, en équilibre instable, de la planche et des caisses du vieux Fletcher. Imaginez-vous le cataclysme. Ailleurs, c'est un couple épouvanté, cruellement surpris sur une balançoire. Le flot tumultueux a passé. La grande rue d'Iping, avec ses jeux et son pavoisement, est déserte. Seul, du moins, le fléau invisible continue d'y sévir. Ça et là, les débris du jeu de massacre, des lambeaux de toile déchirés, les marchandises éparses d'une boutique de sucrerie. Partout, le bruit des volets qui se ferment, de verrous qui se tirent. Du genre humain, on n'aperçoit plus, par-ci, par-là, qu'un œil sous une paupière clignotante dans le coin d'une vitre. L'homme invisible s'amusa quelque temps à casser tous les carreaux de l'auberge. Puis il lança l'une des lanternes de la rue dans la fenêtre du salon de Madame Grogram. Ce fut lui encore, sans doute, qui coupa le fil du télégraphe d'Aberdeen, un peu au-delà du cottage de Hagen, sur la route d'Aberdeen. Après quoi, en vertu de son essence particulière, il échappa tout à fait à la perception des hommes. Il ne fut jamais plus ni vu, ni entendu, ni touché même à Iping. Il s'évanouit complètement. Il se passa bien près de 2 heures avant que personne n'osât s'aventurer parmi la désolation dont la grande rue offrait le spectacle. Chapitre 13. Monsieur Marvel discute sa soumission. À l'heure du crépuscule, Iping commençait à peine à ouvrir les yeux timidement sur ce qui restait de la fête. Un homme, petit, trapu, coiffé d'un chapeau de soie râpé, marchait péniblement dans la demi-obscurité entre les hêtres sur la route de Bramblehurst. Il portait 3 volumes, attachés ensemble par une sorte de lien élastique élégant, et un paquet enveloppé dans un tapis de table bleu. Sa figure rubiconde exprimait la consternation et la fatigue. Il marchait d'un pas pressé, à perdre haleine. Il était accompagné par une autre voix que la sienne, et de temps à autre, il tressaillait sous l'atteinte de mains que l'on ne voyait pas.
« Si vous me lâchez encore une fois, disait la voix, si vous essayez encore de me lâcher,
Seigneur, s'écria M. Marvel, mon épaule n'est plus qu'une plaie.
Ma parole, je vous tuerai.
Mais je n'essayais pas de vous lâcher, répondit Marvel, d'un ton où l'on sentait que les larmes étaient proches. Je ne connaissais pas ce satané tournant, et voilà tout. Comment diable l'aurais-je connu, ce tournant? La vérité vraie, c'est qu'on m'a bousculé.
Je vous bousculerai bien davantage, si vous ne prenez pas garde.
Monsieur Marvel redevint soudain silencieux. Il enfla les joues, et ses yeux eurent l'éloquence du désespoir.
C'est déjà bien assez de laisser ces rustres-là toucher à mon petit secret, sans que vous filiez avec mes ouvrages. Il est heureux pour quelques-uns de ces lourdeaux d'avoir fui, d'avoir couru comme ils l'ont fait. Ici, je suis... Personne ne me savait invisible. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?
Et moi donc ? Demanda Marvel entre ses dents.
Tout est perdu. L'histoire va être dans les journaux. Tout le monde me guettera, tout le monde sera en éveil.
Ce discours se continua par des imprécations violentes, puis la voix se tut. Le désespoir s'aggrava sur le visage de M. Marvel et son pas se ralentit.
« Avancez donc !»
La face du pauvre Marvel prit une teinte grise entre deux taches rouges.
« Tenez bien ces livres, imbécile !»
fit la voix avec rudesse.
« Le fait est que j'aurais à me servir de vous. Vous êtes un piètre instrument. Mais quoi, faute de mieux, il faut que je m'en serve. »
« Oh, je suis un instrument misérable !» gémit Marvel.
« Oui, certes.
Je suis bien le plus mauvais instrument que vous puissiez avoir. » « Car je ne suis pas fort, » ajouta-t-il après un silence découragé, « je ne suis pas bien fort. »«
Vraiment ?»«
Puis je défaille. Cette petite affaire, mon Dieu, je m'en suis tiré, sans doute, mais, faites excuse, j'aurais pu avoir le dessous. »«
Vous dites ?»«
Je n'ai pas les nerfs, je n'ai pas la vigueur qu'il faudrait pour ce que vous désirez. »«
Je vous remonterai, moi. »«
J'aimerais mieux que vous n'ayez pas à le faire. »« Je ne voudrais pas compromettre vos projets, vous pensez. » Mais cela pourrait arriver, par crainte et par faiblesse.
« Je ne vous le conseille pas, »
dit la voix avec une tranquille assurance. « Ah, je voudrais être mort. Il n'y a vraiment pas de justice. Vous devriez pourtant bien l'admettre. Il me semble que j'ai bien le droit.
Marchez donc !»
M. Marvel pressa le pas, et pour un moment, ils retombèrent dans le silence. « C'est diablement dur, » déclara Marvel. N'ayant obtenu aucun succès, il changea ses batteries. « Qu'est-ce que j'y gagne ? » reprit-il sur le ton d'un homme auquel on fait une injustice intolérable.
« Oh, taisez-vous ! »
cria la voix avec une force soudaine et surprenante.
« Je pourvoirai à vos besoins. Contentez-vous de faire ce qu'on vous dit. Vous pouvez très bien le faire. Vous êtes un imbécile, mais vous ferez très bien cela. »
« Je vous dis, monsieur, que je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Je le dis respectueusement, mais c'est ainsi.
Si vous ne vous taisez pas, « je vais encore vous serrer le poignet, » dit l'homme invisible. « J'ai besoin de réfléchir. »
Bientôt, deux carrés de lumière jaune parurent à travers les arbres, et la tour d'un clocher se profila dans l'obscurité.
« J'aurai la main sur votre épaule pendant toute la traversée du village, » dit la voix. « Tâchez de filer droit. N'essayez pas de faire de bêtises. Le cas échéant, ce serait tant pis pour vous. »«
Je sais, » soupira Marvel, « je sais tout cela. » L'homme à la mine si malheureuse sous son chapeau hors d'usage remonta avec ses paquets toute la rue du petit village et s'enfonça dans la nuit au-delà des dernières fenêtres éclairées.